voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Se soigner autrement. L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Anne-Gervaise Vendange a longtemps travaillé dans le monde de la petite enfance avant d'opérer un virage dans sa vie professionnelle. Aujourd'hui formatrice et superviseuse à l'Arche, elle forme des praticiens, des pédagogues et des professionnels de la santé à l'hypnose ericksonienne. Dans cette première partie de l'émission, Anne-Gervaise revient sur son itinéraire de vie qui l'a amené à s'intéresser à l'hypnose et à l'hypnothérapie. Donc, dans cette série d'émissions radio, qu'on appelle La Voix du Kaizen, on parle de tout ce qui est thérapie alternative. Donc, comme je te l'expliquais hors micro, des émissions qui vont toucher différents domaines pour se soigner autrement et mettre peut-être en avant que l'être humain a un côté holistique, donc un corps, une âme, un esprit, et pas seulement un corps physique. Et donc, on rencontre différents thérapeutes, et donc je suis avec Anne-Gervaise pour aujourd'hui parler d'hypnothérapie. Alors, c'est vrai que je fais partie de ces gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que l'hypnose, à part ce que j'ai pu en voir à la télé, ou dans les magazines, ou dans les bandes dessinées, où c'est quelque chose de très un peu mystique, où on voit le pendule, la personne qui s'endort et qui part dans le monde des rêves. Voilà, donc avec Anne-Gervaise, superbe, je vais pouvoir enfin comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne. Mais avant de parler d'hypnothérapie, j'aimerais peut-être plutôt m'intéresser à toi et ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivée là ?
Alors, j'ai eu un parcours un petit peu chaotique quand j'étais plus jeune. Je me suis longtemps cherchée, je m'intéressais à plein de choses. Et quand on s'intéresse à plein de choses, le problème c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on s'arrête. Donc je me suis... tu souris, je pense que c'est peut-être quelque chose qui te parle un petit peu. Hein. Effectivement, alors moi je m'intéressais beaucoup à la philosophie, je m'intéressais beaucoup à la psychologie. C'est des champs qui m'intéressaient énormément. Je suis passée par plein de choses. Je suis allée vivre en Italie, je suis revenue... j'ai fait beaucoup de danse, je suis danseuse classique et moderne jazz initialement, voilà, comme quoi ça mène à tout, mais il y a beaucoup de danseurs d'ailleurs dans l'hypnose, on pourrait se demander pourquoi. Voilà, en tout cas, à un moment de ma vie, j'ai eu des enfants, moi j'ai une grande famille recomposée de 6 enfants, donc 4 que j'ai portés, 6 que je porte tous les jours, mais 4 que j'ai portés, et j'ai eu mes 3 premiers enfants en 3 ans. Voilà, donc ça a été un petit peu un parcours un peu particulier parce que moi j'avais une idée, j'ai toujours voulu être maman, j'avais une idée un petit peu précise de ce que je voulais pour eux et donc c'était assez compliqué pour moi de me dire que j'allais aller travailler pour payer quelqu'un qui allait s'en occuper toute la journée. Donc il y avait un truc un peu comme ça. Tout ça pour te dire que du coup j'ai fait le choix à un certain moment de ma vie de rester avec mes enfants, de garder d'autres enfants même pour quand même être autonome financièrement. Et puis à un moment je me suis rendu compte qu'ils étaient grands et que plus grands en tout cas et qu'ils avaient plus besoin d'une présence logistique, mais d'une présence psychique en fait, d'une présence intellectuelle quand ils revenaient de l'école. Et moi, du coup, à ce moment-là, je gardais d'autres enfants, j'avais un parcours qui était... Je travaillais énormément et je me suis rendu compte que j'allais à l'inverse de ce que je voulais. Okay. Donc j'ai commencé à me dire que j'allais faire autre chose, voilà, à ce moment-là. Et j'ai repris un petit peu tout ce que j'aimais faire. J'ai fait un petit peu un bilan de tout ça. J'avais envie d'accompagner. Alors j'ai fait le concours d'instit à côté de ça. J'ai fait. Et puis en parallèle, j'avais toujours eu comment je vais te dire des problèmes de communication. Pour moi, communiquer, c'était un truc un peu compliqué. Pour moi, j'avais toujours eu l'impression que les autres fonctionnaient bien et que moi, j'avais toujours du mal à rentrer en communication bien avec l'autre. Que j'avais, surtout avec les groupes, surtout quand il y avait plusieurs personnes, c'était quelque chose qui était un petit peu toujours problématique pour moi. De faire passer le bon message, en fait, d'être en adéquation avec ce que j'avais à l'intérieur et ce que je passais à l'autre, à l'extérieur. Et puis, j'ai commencé à entendre parler d'hypnose, Mais d'hypnose, entendons-nous bien, comme technique de communication. Okay. Et en parallèle, quand je préparais le concours d'instit, j'ai fait une formation en hypnose en me disant, bon, je sais pas trop ce que je vais faire de l'hypnose, ou voir ce que l'hypnose va faire de moi, mais de toute façon, je sais que je vais apprendre beaucoup sur comment communiquer à l'autre. Et au départ, mon initiative, elle était là, mon envie, elle était là. Comment est-ce qu'on communique mieux à l'autre? Et en fait, j'ai commencé à me former et j'ai découvert un univers passionnant. J'ai eu l'impression de découvrir ma famille, en fait. Un truc un petit peu, justement, au confluent de la psychologie, au confluent de la philosophie, au confluent de choses qui donnent du sens, en fait, et de la communication qui m'a toujours, malgré le fait que je me trouvais pas très douée, m'a toujours vachement intéressée. Donc on était un peu à... j'étais étonnée de rencontrer une technique où on était au carrefour de tout ça, en fait. Voilà, je me suis formée donc dans une école qui s'appelle l'Arche, qui est une des grandes écoles sur Paris, dans plein d'autres endroits aussi. Mais donc je me suis formée là, j'ai fait tout mon parcours à l'Arche jusqu'au maître praticien, et puis finalement, effectivement, j'ai eu les cris du concours d'instit, mais finalement j'ai jamais été jusqu'au bout de cette démarche là parce que j'avais déjà ouvert mon cabinet et que ça a fonctionné tout de suite, en fait. J'ai eu la chance que ça fonctionne tout de suite. La chance, ou je ne sais pas quoi d'ailleurs, il y a sûrement une part de chance aussi, que ça fonctionne tout de suite. Donc j'étais déjà en train d'accompagner des gens quand j'ai eu ce concours, et donc finalement j'ai dévié de la voie que je m'étais fixée pour me dire, bah, finalement, en fait, c'était cette rencontre-là qui était importante dans ma vie. Depuis, il y a plein de choses qui se sont passées, depuis je suis devenue superviseuse, depuis je suis devenue formatrice, toujours à l'Arche, dans cette école où moi j'ai été formée. Donc aujourd'hui, mon temps se partage entre le cabinet, qui est important pour moi, qui reste... je pourrais aujourd'hui, je pense, ne faire quasiment plus que de la formation. Mais c'est important pour moi de rester en cabinet. C'est important parce que c'est ce qui nous... Aujourd'hui, je forme des praticiens, je forme des gens qui accompagnent, des accompagnants. Et c'est important pour moi de rester au contact des vrais gens, de rester au contact du public, de me confronter tous les jours à différentes problématiques, à différentes personnalités, et de pouvoir continuer à me nourrir de ça pour pouvoir former. Déjà. Et puis parce que c'est pas du tout le même accompagnement. Accompagner quelqu'un en individuel, c'est pas du tout la même chose que d'accompagner un groupe, voilà, de praticiens, de professionnels. Donc les deux me permettent d'être en équilibre, en fait.
Mais pourquoi l'hypnose t'aurait pu t'intéresser à d'autres outils de communication? Je sais pas, je pense à la CNV où il y a plein, tout un panel d'outils.
En hypnose, je m'intéresse aussi à la CNV. En hypnose, on fait de la CNV aussi. En hypnose, par exemple, quand tu... Alors, on va partir un petit peu tout de suite dans l'hypnose, mais en fait, en hypnose, ça dépend de quoi on est en train de parler. Il y a deux choses quand on parle d'hypnose. Quand on parle d'hypnose, souvent les gens y pensent la modification de l'état de conscience. Ils voient effectivement, comme tu disais, quelqu'un avec un pendule qui est un peu à moitié endormi comme ça, alors que l'hypnose, c'est pas du sommeil. Je vais t'en parler tout à l'heure. L'hypnose, c'est tout sauf du sommeil. Mais effectivement, est-ce qu'on est en train de parler de la modification de l'état de conscience, ou est-ce qu'on est en train de parler de la technique d'accompagnement? Et on n'est pas du tout au même endroit, hein, à cet endroit-là. Et effectivement, en hypnose, par exemple, l'idée, c'est de se dire, un des postulats, par exemple, c'est de se dire qu'il y a plusieurs parties à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on est plutôt dans la théorie des parties. C'est de se dire que, à l'intérieur de toi, par exemple, si tu as envie, je ne sais pas, de venir me voir pour arrêter de fumer, il y a une partie de toi qui a envie, puisque tu es là, puisque tu es venu, il y a une partie de toi qui a envie d'arrêter de fumer. Puis il y a une partie de toi qui n'y arrive pas encore, ou une partie de toi à qui ça sert encore à quelque chose. Et donc l'idée, c'est de dire qu'il y a une espèce de conflit interne comme ça, hein, où ces deux parties-là, ben, pour le même sujet, elles sont pas d'accord. Okay ? Et on peut faire de la CNV à cet endroit-là. On va demander à ces parties-là de venir négocier à l'intérieur, et de venir dire leurs besoins, et de venir les communiquer de manière qui soit entendable pour l'autre partie. Finalement, de la CNV, on en fait en hypnose, si tu veux. Hein. Et on enrichit effectivement l'hypnose en tant que technique, on vient l'enrichir de plusieurs courants, hein, qui permettent à l'autre de pouvoir progresser, de pouvoir changer. La personne, si elle vient à un moment ici, c'est qu'elle a une demande de changement de toute façon. Comme toutes, d'accord, quelles que soient les techniques, j'imagine que tu as vu d'autres praticiens... pendant cette série que tu es en train de faire, tous les praticiens, en fait, ils reçoivent des gens qui ont des besoins et des demandes de changement. Et on a tous une manière, effectivement, de les accompagner différentes. Mais je pense qu'il y a des choses qui nous relient tous, qui sont l'intention à l'autre, qui vont être le rapport à l'autre. Tout se joue, à mon sens, dans le rapport, quelle que soit ta technique. Alors après, ta technique, elle est plus ou moins forte, elle permet plus ou moins de venir encore améliorer ça. Mais avant tout, ce qui se joue, c'est comment est-ce que tu viens de connecter à l'autre et comment tu viens de connecter à l'humanité de l'autre. Et ça, c'est toute une autre partie de mon travail. Mais voilà, oui, j'espère qu'aujourd'hui, je communique bien. C'est l'essence de ce que je fais, donc j'espère que ça se fait bien. Mais l'hypnose, finalement, c'est l'autre qui vient communiquer à lui de la meilleure des manières, d'une meilleure manière, en tout cas, à lui et à ses besoins internes et à ses parties internes.
Avant de développer l'hypnose, est-ce que tu peux me parler de l'histoire, de l'historique? À partir de quel moment est-ce que l'hypnose est apparue dans nos vies?
Alors, l'hypnose est apparue dans nos vies. Alors, Là, on va partir sur des choses de ce que moi je retiens. L'histoire de l'hypnose, elle est très très riche. Hein. C'est très très riche. Ça commence très très tôt en fait dans la vie de l'humanité, sûrement même. Hein. On peut sûrement remonter très très tôt. Tout ce qui est rituel, rituel de passage, rituel de vie. En fait, on peut se rendre compte que dans beaucoup de ces rituels, il y a déjà un état modifié de la conscience. Ok. J'en sais rien, t'es autour d'un feu et que tu chantes et que tu danses et qu'il y a des tambours, il y a des états modifiés naturels de la conscience spontanée qui viennent se mettre en place à cet endroit-là.
Mais quand tu dis hypnose, c'est obligatoirement état modifié de la conscience.
Oui, d'une certaine manière. Oui. Alors, oui, si on est en train de parler d'état modifié de conscience, c'est ce que je te disais tout à l'heure. De quoi est-ce qu'on est en train de parler à cet endroit-là? Oui, parce que, en fait, l'hypnose, l'idée de base, c'est de se dire qu'en modifiant l'état de conscience, on va permettre d'accéder à toute la pensée inconsciente, toute la partie inconsciente, celle qui est automatisée, en fait, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous tous. En fait, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, finalement, il y a toute une partie de moi auquel j'ai pas accès consciemment. Cette partie, c'est tous les automatismes, toutes les choses qui, à un moment, ont été apprises, marcher, lire, réfléchir là-dessus. Les gens le voient pas quand t'es en train de me faire oui-oui avec la tête, d'accord? Et sûrement que tu réfléchis pas au fait que t'es en train de me faire oui-oui. Il y a une autre partie de toi qui est en train de le faire. C'est une partie plus inconsciente qui est en train de me dire oui-oui, ok, c'est bon, je te suis, je comprends, on y va, on continue. Ou autre chose d'ailleurs. Je sais pas ce qu'elle me dit cette partie-là, mais en tout cas, voilà, dans la communication courante, ça, c'est à peu près quelque chose de cet ordre-là. Donc l'idée, c'est que, je sais pas, quand tu te lèves et que tu marches aujourd'hui, tu réfléchis plus à comment tu te lèves et que tu marches. Tu le fais. Ok, et tu te poses plus la question de comment tu le fais, mais tu l'as appris un jour. Et c'est ça en fait, c'est l'idée de se dire que la plupart des choses en fait à l'intérieur de toi ont été un jour expérimentées, apprises et automatisées. Sauf qu'à un moment, ces automatismes ils se mettent en place comme ça et qu'on n'y a plus accès. On n'a plus accès en tout cas à la base de données qui nous permettrait d'aller le changer ça. Et l'idée de l'hypnose, c'est de se dire que c'est en modifiant l'état de conscience, ça crée un pont. En fait, entre le conscient et l'inconscient. Alors, c'est pas parce qu'on est en train de parler d'état modifié de la conscience qu'on est en train de parler d'inconscience. Hein. Les gens sous hypnose, la plupart du temps, ne sont absolument pas inconscients. Ils sont conscients de ce qui est en train de se passer. Il y a une espèce de position méta, comme ça, où la personne peut même être en train de regarder ce qui est en train de se passer. Hein, pourquoi pas, de manière un peu dissociée, comme ça, ou alors de manière associée, être en train. Voilà, si je dis toujours aux gens, s'il y avait une alarme, quelque chose qui se mettait en place, je ne sais pas, quelque chose qui se passerait, vous ouvririez les yeux et vous gériez le truc. On n'est pas du tout dans un état d'inconscience. Il y a même plein de gens qui pensent que l'hypnose, c'est un état de surconscience. Un état où on peut se rendre compte de choses et prendre conscience de choses dont on ne se rend pas compte d'habitude. Okay. Tout ce qui est automatique, justement. Hein. La manière dont là, tu es posé sur le fauteuil, peut-être que sous hypnose, tu peux y réfléchir fortement, le ressentir fortement et avoir des prises de conscience importantes sur ce qui est en train d'être mis en place pour toi à cet endroit-là. Donc, voilà, l'idée, c'est que l'hypnose, c'est ce pont qui permet d'aller dans un endroit auquel tu n'as pas accès d'habitude et de pouvoir finalement reprendre le contrôle sur cet endroit-là. Et j'utilise volontairement ce terme de contrôle. Il y a souvent des gens qui arrivent avec plein d'idées reçues sur l'hypnose, sur le fait que ça va être une perte de contrôle. Moi, je pense au contraire que ça nous fait gagner en contrôle. Parce que finalement, on gagne sur tous ces automatismes qui sont en fait une grande partie de ce que tu vis dans ta journée, de ce que les gens vivent dans leur journée. Hein. Mais ces états de conscience, ils se mettent finalement, comme ça, modifiés, ils se mettent en place de manière assez spontanée. Hein. Là, t'es pas tout à fait dans le même état que quand tu marchais dans la rue tout à l'heure. Il y a peut-être des gens qui sont en train de nous écouter et qui sont un peu les yeux dans le vague, comme ça, en buvant leur café, on se dit. Et ils sont déjà dans un état modifié de la conscience. On les expérimente régulièrement dans la journée, ces états de conscience. L'idée de l'hypnose et de l'hypnotiseur, ou du praticien en hypnose, ou de l'hypnologue, ou de l'hypnopraticien, de l'hypnothérapeute, il y a plein de manières de le dire, c'est avant tout de savoir créer cet état de conscience modifié. Alors, il y a des gens qui ont besoin de s'entraîner pour ça. Il y a des gens qui l'ont spontanément. On n'est pas égaux.
Hein, de le créer chez toi ou chez l'autre?
De chez l'autre. Après, tu le crées chez toi aussi. Hein. Il y a ce qu'on appelle la transe de l'opérateur, qui fait qu'effectivement, l'opérateur, sûrement, à certains moments de la séance, il n'est plus tout à fait en état de conscience habituel. Et c'est OK, il sait le gérer, ça. Hein. Sûrement que pour faire expérimenter l'hypnose à l'autre, il faut soit être conscient de ses états de conscience et à quel endroit est-ce qu'on est. Peut-être, en tout cas, c'est peut-être une croyance que j'évoque, mais... En tout cas, c'est quelqu'un qui sait créer ce pont, avant tout. Et donc, qui sait communiquer à l'autre pour pouvoir créer ce pont, qui va permettre à l'autre de reprendre du contrôle. Hein. Les gens, ils viennent me voir parce qu'ils ont perdu une certaine partie du contrôle. D'ailleurs, c'est rigolo parce que souvent, ils viennent me voir parce qu'ils ont perdu ce contrôle, et en même temps, ils ont peur de le perdre quand ils viennent, hein, parfois. Alors, c'est assez rigolo. On dit, mais de toute façon, le contrôle, vous l'avez pas, puisque vous... pouvais pas tout seul arrêter de fumer ou j'en sais rien, arrêter d'avoir peur de l'avion. Donc c'est quelque part ce contrôle, vous l'avez plus. Donc en tout cas à cet endroit-là de votre vie. Donc c'est reprendre le contrôle d'hypnose. Et c'est là où c'est intéressant. Voilà. Si on est en train de parler d'état de conscience. Donc oui, l'état de conscience, elle peut se modifier un peu, elle peut se modifier beaucoup.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Et voilà, pour en revenir à la question initiale, sûrement que l'hypnose, on l'expérimente depuis très 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 longtemps, voilà, dans l'histoire de l'humanité. Si on est en train de parler d'histoire moderne, ça commence avec Mesmer, qui n'est pas du tout le Mesmer qu'on connaît aujourd'hui, qui est un Autrichien ses dates, c'est 1700, je crois, 37, 1825, dans mes souvenirs, qui est un Autrichien qui va en fait s'intéresser à une technique qu'on va appeler le magnétisme animal, qui est une technique voilà, où on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir... Alors, ils vont l'appeler magnétisme animal à ce moment-là, mais effectivement, qui est une technique où on a l'impression que les gens vont, voilà, à travers certains fluides animaux qu'ils imaginent qui passent entre la personne qui est le praticien et la personne qui reçoit le soin. Il y a des choses qui se passent, qui créent des états modifiés de conscience, qui font que les gens changent. Il y a un peu un truc comme ça. Et donc, Mesmer va aller chercher ce magnétisme animal, va chercher en fait ce qui se met en place à cet endroit-là. Il va avoir des élèves, en fait, Mesmer, qui vont aller décaler petit à petit du fluide à plutôt quelque chose de l'ordre de la suggestion qui passe entre les gens. Et puis voilà, l'histoire de l'hypnose va comme ça, avant le XXe siècle en tout cas, être plutôt fait de recherche. Voilà, il y a Bernheim qui va arriver avec l'école de Nancy, qui va venir aussi expérimenter tout ça. Freud va s'intéresser à l'hypnose à certains moments de sa carrière. Voilà, tout ça c'est jusqu'au début XXe. Où à un moment, on va passer dans une démarche très scientifique. Alors, ils étaient déjà dans une démarche scientifique, ces gens-là, mais on va chercher à un moment dans l'histoire de la science à ce que les choses soient très reproduisibles pour tout le monde, tout le temps. Et ça va un peu desservir l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est avant tout quelque chose où chaque séance est unique, où chaque séance est une co-création, où chaque être humain, comme on est sur la pensée inconsciente, sur les parties inconscientes, bah finalement, bah ton inconscient, il ressemble pas forcément à l'inconscient de l'autre, il ressemble pas forcément à l'inconscient du voisin. Donc ça va venir desservir un petit peu, à ce moment-là, l'hypnose, cette démarche-là, qui est une démarche qui était importante à avoir, hein, dans la démarche scientifique, mais qui effectivement... Bah, l'hypnose, c'est pas facile que ce soit reproduisible pour tout le monde. Le même protocole d'hypnose ne va pas fonctionner avec tout le monde, tu vois. Donc ça a posé problème. À un moment, on l'a un peu rangé dans quelque chose de l'ordre de... voilà, un truc qui était un peu perché, qui était un peu... Alors qu'avant, il y avait plein de médecins qui utilisaient l'hypnose, il y avait plein de... Et la médecine va un peu s'en détourner au XXe siècle. Alors, là, je te parle de manière très globale. Il y a certains médecins qui continuent à s'intéresser à l'hypnose, hein, notamment dans l'histoire moderne de l'hypnose, un médecin qui va s'appeler Milton Erickson, qui est un Américain, qui est psychiatre. Alors en fait, Milton Erickson, c'est d'ailleurs aujourd'hui l'hypnose que moi je pratique s'appelle l'hypnose ericksonienne. C'est lui qui va poser vraiment les jalons de l'hypnose moderne et de l'accompagnement surtout en hypnose moderne. Erickson, il naît en 1901. Il va mourir en 1980, tu vois, c'est assez récent. Et en fait, c'est un monsieur qui naît, qui est déjà un peu particulier. Il a des troubles de la perception. Il est daltonien. Il est amusique. Il a aucun sens du rythme, la musique, les notes, tout ça, ça fait pas du tout sens pour lui. Et puis, on va se rendre compte d'ailleurs plus tard dans sa vie qu'il est très très dyslexique. Voilà, il est un petit peu comme ça, avec plein de troubles sensitifs, donc déjà il va s'interroger assez tôt dans sa vie sur qu'est-ce qui fait notre réalité, qu'est-ce qui fait que nos sens, on les a en commun, qu'est-ce qui fait que nos perceptions sont communes, tout ça, ça lui pose beaucoup de questions, parce qu'en fait, lui, ses perceptions, elles sont un peu à côté de ce que peuvent ressentir la plupart des gens. Et puis, il lui arrive quelque chose dans sa vie qui va être déterminant et très constructif pour lui, qui est le fait qu'il va être atteint d'une polio à 17 ans. En fait, une polio très grave, hein, il va être très fortement atteint. Et en fait, il entend un soir un médecin dire à sa mère qu'il ne passera pas la nuit. Voilà. Et ça, c'est un élément très fondateur chez lui. Il va demander à sa mère de le mettre à côté de la fenêtre pour pouvoir voir une dernière fois le soleil se lever. Voilà, tout ça avec aussi une croyance à l'intérieur qui va y arriver. Il se dit, en fait, si je survis à cette nuit-là, eh ben, je vais survivre. Et ça va être aussi intéressant sur les croyances et comment est-ce qu'on travaille les croyances sur soi en hypnose. Mais voilà, il va voir le soleil se lever. Il va expérimenter à ce moment-là ce qu'il va plus tard définir comme un état d'hypnose, où il va à ce moment-là avoir des hallucinations négatives, il va enlever l'arbre qu'il est en train, qui a devant entre lui et le soleil, il va commencer comme ça à expérimenter des perceptions particulières. Voilà, il va avoir 3 jours de coma, duquel il va se réveiller. Et puis ensuite, il va expérimenter un long moment, plus d'une année, je crois, hein, de paralysie dans le corps. Où il va, lui, il a, je sais plus, je crois, 6 ou 7 sœurs et un frère, une famille nombreuse. Et en fait, il est dans ce fauteuil, chez lui, bloqué dans son corps. Et en fait, il va commencer à regarder fonctionner sa famille, fonctionner ses sœurs entre elles, regarder les gens interagir. Sûrement quelqu'un de très très intelligent. Il regarde les gens interagir et du coup, il va commencer à mettre en place ce qu'on va appeler nous plus tard comme technique la calibration, c'est-à-dire regarder ce qui se passe chez l'autre et tout ce qui est non-verbal, tout ce qui est dit en fait dans ce qui n'est pas dit. Il va se rendre compte que ses sœurs, des fois, elles disent oui avec leur voix et qu'en fait, elles sont en train de dire non avec tout le reste de leur corps. Et il va se demander ce qui se passe à cet endroit-là. Okay. Lui, il a plutôt une famille de terriens, d'agriculteurs. D'ailleurs, il aide au champ avant d'avoir sa polio, hein, beaucoup. Il va se rendre compte que voilà, être agriculteur, travailler la terre, c'est pas possible pour lui. L'état dans lequel est son corps, il va garder des séquelles, hein, de sa polio. Et du coup, il va décider de devenir médecin, voilà, de devenir psychiatre. Mais c'est vrai qu'on a du mal à parler d'hypnose sans rentrer un peu dans le spécifique. C'est un peu compliqué parce que c'est difficile de faire des raccourcis. Parce que si on fait des raccourcis, on enlève un peu l'essence de ce que c'est. Tu vois, c'est un truc qui est un peu... Voilà, je vais essayer de faire au maximum, de synthétiser au maximum.
Anne Gervaise avec moi pour parler de l'hypnose. Donc là, tu nous as fait toute la partie historique. Merci déjà de voir que c'est quelque chose, cet état de modifié de conscience existe depuis très longtemps. Beaucoup de peuples ont utilisé cet état. Tu parlais de tambour, tu parlais de trance, tu parlais de musique, les chamans.
Il y a d'autres manières de l'appeler, hein, en fonction des cultures, hein, mais ça reste de l'hypnose. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous, en hypnose moderne, en Occident, on s'en sert de cette manière-là, et avec un accompagnement qui est un peu comme ça, neurosciences, un peu. Mais il y a plein d'endroits dans le monde où l'on utilise d'une autre manière, mais on est en train de parler de la même chose, on est en train de parler d'état modifié de la conscience.
C'est ça, et tu disais aussi au début de cette interview, tout dépend de quoi t'en parles. Donc il y a l'état modifié de la conscience, mais il y a une deuxième partie.
C'est l'accompagnement pur, c'est comment est-ce que, c'est les techniques d'hypnose, c'est-à-dire les protocoles. Une fois qu'il y a cet état modifié de la conscience qui est mis en place, on va passer des protocoles, on va passer... Et d'ailleurs, l'hypnose, en fait, et Erikson, puisque j'en étais à Erikson, il y a plein d'élèves d'Erikson qui vont former plein d'autres courants, notamment avec l'école de Palo Alto, qui vont former la thérapie systémique, qui vont former la PNL, qui vont former des qui vont en fait tenter de mettre en place... Alors Erikson, c'était un espèce comme ça de thérapeute un peu qui faisait les trucs un peu de manière instinctive. Et toute l'école derrière de Palo Alto va essayer de mettre en place des protocoles reproductibles de ce qu'il faisait, et notamment avec la PNL et notamment avec des accompagnements très modernes aujourd'hui, et on peut provoquer des changements. Donc voilà, il y a des petits encore aujourd'hui d'Erikson. Aujourd'hui, on peut dire même qu'on rentre dans un accompagnement qui est plutôt post-Ericksonien. Aujourd'hui, on ne se sert plus que d'Erikson. On se sert de tous les gens qui ont été derrière ça, qui ont réfléchi les choses, qui ont pensé les choses autrement. Et voilà, moi, quand j'ai rencontré l'hypnose, c'était surtout ça. Je me suis dit, mais j'avais expérimenté, moi, des choses dans ma vie déjà, sur la manière dont on pouvait contrôler un peu son cerveau, contrôler ce qui se passait. Alors, je me le mettais dans le cerveau à ce moment-là. Ça se met sûrement un peu dans le cerveau et puis un peu ailleurs. Mais j'avais expérimenté des techniques, je pense qu'on en a tous expérimenté pour gérer nos émotions, pour gérer nos pensées, et en fait, en découvrant l'hypnose, j'ai découvert ça. Je me suis dit, mais purée, en fait, il y a des gens, ils ont pensé à ça. Ils ont mis ça en mots, ils ont été tellement plus loin que ce que j'aurais pu faire toute seule en une vie, en fait. Et ils vont me faire gagner un temps précieux. Voilà.
Donc on a cette capacité, ce potentiel de pouvoir altérer ou modifier l'état de notre conscience à chaque instant.
Ouais, et puis tu le fais tout seul spontanément tout le temps, enfin régulièrement en tout cas dans ta journée, dans les moments où, je sais pas, j'imagine que toi tu l'as expérimenté et que les gens qui nous écoutent l'ont expérimenté, c'est quand tu marches et que sur un trajet que tu connais bien par exemple, et puis que tu arrives à destination et que tu te dis « purée mais je suis déjà là ». Mais attends, je me suis pas vue faire le trajet, j'étais ailleurs dans ma tête, j'étais en train de réfléchir à autre chose. Mais visiblement, je me suis mis en sécurité, il y a une partie de moi qui m'a mis en sécurité, en tout cas, j'ai dû m'arrêter bien au feu, j'ai dû faire tout ce qu'il fallait. On l'expérimente en bagnole, même des fois, hein, ce truc-là. Ça peut être quand tu lis un livre et qu'au bout de 3 pages, tu te dis, aucune idée de ce que je viens de dire, tu vois. Tes yeux, ils ont bien suivi toutes les pages, il n'y a pas de souci, mais ta tête, elle était ailleurs, et tes pensées étaient ailleurs, Et pourtant, bah, tes yeux, ils ont bien lu, ton corps, il était en automatique à cet endroit-là. Mais ça, c'est déjà un état d'hypnose, en fait. Donc, ça se met en place régulièrement, de manière spontanée. Mais oui, effectivement, tu peux décider de le faire. D'ailleurs, tu peux décider de le faire avec un praticien. Et puis, tu peux décider de le faire dans ce qu'on va appeler l'auto-hypnose, avec des techniques de mise sous hypnose, où toi, tu vas pouvoir aller bah, tout seul, changer ce que tu as envie de changer. Alors, ça peut être expérimenté juste cet état-là, juste pour le tour de manège. C'est dire, bon, bah voilà, je crée des sensations dans mon corps, je crée des. Qui sont hors champ, hors cadre de ce qui s'y passe d'habitude. Et puis, ça peut être aussi décider d'avoir cette étape pour changer quelque chose et pour travailler quelque chose que tu as envie de travailler à l'intérieur de toi, quelque chose que tu as envie de changer.
On va s'intéresser à cet aspect-là, à l'aspect thérapeutique, donc à cette envie de changement. Donc, on a tous des casseroles finalement, et c'est vrai qu'on essaie de s'en débarrasser avec différents moyens. Donc, comment l'hypnose va pouvoir t'aider ? Comment ça fonctionne ?
Alors, comment ça fonctionne ? Donc, il y a cet état modifié de conscience qui est mis en place. Alors, je trouve que ce qui est intéressant comme question avant celle-ci, c'est peut-être qui est-ce qui peut faire de l'hypnose ? Aujourd'hui, donc la médecine aujourd'hui se réintéresse à l'hypnose. Hein, ça, c'est important de se le dire. Parce qu'il y a longtemps où, effectivement, elle l'a délaissée en se disant que c'est juste un truc un peu, voilà, un peu perché. Malgré le fait, comme je te disais, qu'il y a plein de médecins qui ont continué à s'y intéresser. Aujourd'hui, l'hypnose, la médecine s'y réintéresse, notamment dans ce qui est gestion de la douleur, gestion de l'anesthésie. Aujourd'hui, l'hypnose, on en a en bloc opératoire, on en a... voilà, pour la gestion des émotions, pour plein de choses.
Fait par les médecins ou par...
Fait par les médecins, ouais. Fait par les médecins. Moi, aujourd'hui, je suis formatrice et je forme... Il y a plein de médecins que je forme à l'hypnose. Aujourd'hui, dans mes formations d'hypnose, j'ai des accompagnants, bien sûr, qui sont déjà formés à d'autres techniques. J'ai des pédagogues qui viennent s'intéresser à l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est comment est-ce qu'on communique et que donc comment est-ce qu'on apprend. Hein, quand tu viens faire une séance d'hypnose, tu viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc c'est comment est-ce qu'on permet à l'autre d'apprendre mieux. Donc j'ai des pédagogues, j'ai des infirmiers, des médecins qui viennent s'intéresser à comment est-ce qu'on communique mieux à l'autre. Ça peut être pour donner des diagnostics, pour communiquer à ses patients, mais c'est aussi vraiment pour comment est-ce qu'on permet à l'autre de mieux gérer ses émotions dans une opération, comment est-ce qu'on permet à l'autre aussi d'expérimenter ce qu'on peut expérimenter avec l'hypnose, c'est-à-dire l'anesthésie, l'analgésie, l'antalgie. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a pour une part des professionnels de santé qui se forment à l'hypnose, des psychologues bien sûr, qui viennent enrichir leur technique et qui savent déjà de l'accompagnement avec l'hypnose. Et puis il y a des gens qui se forment à l'hypnose, qui sont déjà accompagnants ou qui viennent en première intention devenir accompagnants avec l'hypnose. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble peut-être une séance d'hypnose, c'est ça, ou comment est-ce qu'on...
Oui, ou ben on peut peut-être prendre un cas concret, quelqu'un qui va venir avec une problématique. Hein, donc, comment est-ce que ça va se passer ? Comment va se passer la séance ?
Alors, la séance, elle se passe jamais pareil. Et j'ai envie de dire à tous les gens qui nous écoutent, surtout, si vous avez quelqu'un qui vous propose une séance d'hypnose où il va faire la même chose pour tout le monde, ou pour lui, je ne sais pas, quelqu'un qui arrête de fumer, il va faire la même chose à tout le monde, ça va être la même séance, le même protocole, fuyez, ok ? Parce que vous êtes une personne unique et que vous méritez un protocole unique. Et ce qui fait que ça va fonctionner, c'est avant tout que c'est quelque chose qui est complètement adapté à la personne qui arrive, d'accord ? Et à son fonctionnement personnel. Et on a des manières très différentes tous de fonctionner.
Donc le praticien doit faire preuve de beaucoup d'empathie, de compassion, d'équanimité pour pouvoir ressentir la personne en face de lui.
Absolument. Et je vais même aller jusqu'à d'utilisationnel, de ce qui se présente, de souplesse. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir plein de techniques différentes et d'avoir plein de lectures différentes de l'autre. Hein, et c'est avant tout, bah, quel est ton fonctionnement à toi ? Comment est-ce que tu perçois le monde ? Quelles sont tes croyances ? Comment est-ce que tu perçois ta réalité, comment est-ce que tu fonctionnes, même en termes un peu structurels, comment est-ce que tu lis le monde à travers ta manière de le voir, quoi, hein, tout simplement. On est beaucoup en hypnose sur le principe, comme en PNL, comme sur le principe de carte du monde. En fait, on a l'impression qu'on partage nos réalités, et en vrai, on en partage une petite partie seulement de nos réalités. Hein. Ce qui te semble à toi être une absolue vérité ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est toujours d'avoir ça en tête quand on est praticien en hypnose. Donc, par exemple, hein, un exemple concret, c'est quelqu'un qui va me dire « De toute façon, moi je grossis parce que je suis stressé. » Et quand on est stressé, on mange. Hein, et ça lui semble être une évidence que quand on est stressé, on mange. Pour autant, pour quelqu'un d'autre, quand on est stressé, on ne mange plus. Il n'y a plus rien qui passe. Hein, y a les gens, ils nous disent « j'ai la gorge nouée, il n'y a plus rien qui se passe quand je suis stressé ». Donc, ce qui te semble être une absolue vérité ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et donc, effectivement, comment, je me demande toujours, comment est-ce qu'une séance d'hypnose peut être la même pour tout le monde? Comment est-ce qu'on peut recevoir des groupes avec 20 personnes qui arrêtent de fumer? Parce que ces 20 personnes, elles sont forcément toutes différentes. Donc voilà, ça, c'est mon questionnement à moi. Et sûrement que les gens qui font ce genre de choses ont une réalité différente de la mienne. Et ça, c'est OK aussi.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.